d'un point de vue purement économique. On a vu ce matin pas mal de chiffres. On verra cet après-midi une vision beaucoup plus économique, soit pour vous donner des conseils, soit pour répondre à pas mal de vos interrogations sur cette première table ronde qu'on a intitulée « Conquérir les marchés chinois ». Alors, depuis son ouverture au monde capitaliste, la Chine, elle n'en finit plus de faire rêver. Elle représente un marché, un très très vaste marché, que toutes les entreprises veulent conquérir, les entreprises du monde entier. On a vu quelques chiffres ce matin, je vais simplement vous en rappeler quatre. C'est une population, pour ce seul pays, 20% de la population, on l'a rappelé ce matin, 1,3 milliard d'habitants. Parmi ce 1,3 milliard d'habitants, on a à peu près 200 millions qui ont un niveau de vie proche du nôtre, nous autres Européens. 200 millions pour un seul pays. La croissance, 10% de croissance en moyenne depuis 10 ans. 10%. On se gargarise depuis une semaine avec nos 2,2% qui sont un super score pour notre pays à nous. 10% en moyenne depuis 10 ans et les autorités prévoient 7,5% jusqu'en 2020. 7,5%. Le PIB, quatrième puissance économique mondiale depuis 2005. Et puis, secteur agricole, premier producteur mondial dans de nombreux secteurs. Voilà, simplement pour vous resituer en quatre chiffres. Ce qu'est l'Empire du Milieu et son vaste marché. Alors, on a invité 5 personnes aujourd'hui pour nous parler de ce vaste sujet de conquérir les marchés chinois. On aura Jean-Paul Larson, professeur HEC, département stratégie et politique d'entreprise, partage sa vie entre la France et la Chine, grand spécialiste de la Chine. On aura également Olivier Lefebure, qui est avocat d'affaires associé chez UGGC, longtemps basé à Pékin, de retour en France depuis quelques années, de nombreux voyages partagés également, une vie partagée entre la France et l'Empire du Milieu. Il a assisté beaucoup de PME françaises à s'implanter sur ce vaste marché chinois. On a également Jean Veillon, vice-président du conseil de surveillance chez Solfing et Vezo, qui a participé à l'implantation de nombreuses jeunes ventures en Chine. On aura Marc Zolver, dont je ne le présente plus, directeur adjoint de Centrale Pékin, qui va nous apporter la dimension éducation et donc l'avenir des jeunes Chinois sur le marché avec cette vision franco-chinoise des affaires. Et le tout sera animé avec brio par Madeleine Barbier du magazine Chine Plus. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Oui, ce matin, vous avez vu que la Chine était un empire dont la puissance ne va cesser d'augmenter et qu'il était ultra important d'essayer de comprendre parce qu'effectivement, c'est un empire dont la culture s'est bâtie très loin de la nôtre et on a l'impression parfois que les Chinois sont des êtres particuliers qu'il faut aborder de manière particulière. Alors, vous êtes des entrepreneurs tous ici et une des questions que vous pouvez peut-être vous poser, c'est de savoir si effectivement, il faut avoir un comportement particulier avec les Chinois, en quelque sorte, s'il y a des spécificités chinoises. Alors là, je me retourne vers tous ceux qui sont autour de la table, là, Jean-Paul Larson, Olivier Lefebure, Jean Veillon. Peut-être on commencera par Monsieur Lefebure. Pensez-vous vraiment qu'il y ait une spécificité chinoise et que dans les affaires, il faille avoir un traitement, une stratégie spéciale vis-à-vis de la Chine?
Non, moi je considère que les Chinois sont des gens comme les autres et que dans une négociation, il faut se comporter avec son bon sens habituel. La Chine provoque chez les hommes d'affaires, et pas que chez eux d'ailleurs, souvent des pulsions très fortes. C'est l'altérité, etc. C'est très loin. On peut tomber amoureux. Et il est surprenant pour moi, avocat, de temps en temps de voir des clients qui, sur leur marché français ou européen, sont absolument remarquables et qui, tout à coup, parce qu'ils sont en Chine et qu'ils sortent peut-être d'un séminaire interculturel où on leur a dit des tas de choses, se mettent à accepter des choses que nulle part ailleurs au monde ils accepteraient. Ce genre de comportement existe, donc attention, gardez votre bon sens. Il y a quand même, bien entendu, c'est-à-dire que nous tous ici présents, nous sommes principalement français, nous sommes tous à la fois identiques et non identiques. Bon, bien sûr, il y a aussi des particularités chinoises liées à l'histoire. de la Chine, notamment ces dernières années. Et donc il y a des choses qu'il faut intégrer, notamment le fait que vos interlocuteurs ont une culture des affaires, une culture juridique qui est toujours assez récente. Pourquoi ? Parce que tout cela a 25 ans. Il y a plus de 25 ans, il n'y avait rien sur le plan des affaires ou sur le plan du droit des affaires. Donc vous avez des interlocuteurs qui ont une culture peu sophistiquée, il faut s'y adapter. Il faut, ça c'est un travers français et pas chinois, éviter d'avoir un comportement arrogant et négocier de manière claire, pédagogique, simple, savoir dire non quand c'est non. En face, les Chinois sont de bons négociateurs, mais souvent des négociateurs assez carrés. Ils vont jouer avec leurs atouts, ils vont jouer avec le temps, souvent. Pourquoi ? Parce qu'en face, ils ont des délégations qui viennent pour une semaine et qui, revenus à Paris, doivent justifier de résultats. Parce que sinon, on se demande pourquoi elles sont parties une semaine tout frais payé en Chine. Les Chinois vont admirablement gérer avec ça. J'ai des clients qui, parfois, mentent sur la date réelle de leur retour. Ils disent qu'ils vont rentrer le vendredi alors qu'ils ont pris un billet pour le lundi qui suit pour éviter de tomber dans ce piège. Voilà. Mon expérience, donc, c'est qu'il faut négocier simplement, pédagogiquement, clairement, garder son bon sens et, bien sûr, tenir compte du fait qu'on reste dans un pays, la Chine, qui est un pays émergent, où la vie des affaires reste peu sophistiquée.
Vous voyez qu'à la fois, il n'y a pas vraiment de spécificité, les Chinois sont des hommes comme les autres, mais il faut quand même avoir un comportement un peu particulier, parce que sinon, on risque de se faire piéger. Donc, je me tourne maintenant vers Jean-Paul Larson pour vous poser à peu près la même question. Spécificité chinoise, oui, non, que faut-il faire pour s'adapter et être au mieux dans les négociations et le travail avec les Chinois?
Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec les orateurs précédents. Les Chinois sont très différents des Français, mais ce sont eux qui sont normaux. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Il y a un grand patron, Shanghai Automotive Company, SAIC, c'est un futur General Motors, a une phrase merveilleuse. On lui demandait, mais pourquoi vous avez des partenariats industriels avec des gens qui sont concurrents entre eux, à la fois avec Volkswagen, Toyota et General Motors. C'est vache, ça. Il disait, ben, c'est normal, parce que moi, j'ai une vision de long terme, et comme vous le savez, il n'y a pas d'amitié éternelle, c'est les intérêts qui sont éternels. Ça veut dire que mes alliances, mes façons de faire peuvent changer selon le rapport de force, selon la réalité. Voilà, donc ils sont tout à fait normaux, ces Chinois, mais pragmatiques. Ils ne sont pas romantiques, ils ne sont pas trop théoriques, et ils veulent des résultats comme nous. Et le fait qu'on soit pressé quand on va les voir, effectivement, c'est un handicap terrible, puisque, d'une certaine manière, ont tout le temps. J'ai entendu l'autre fois, j'étais à Qingdao, là où il y aura les Jeux Olympiques de voile, les gens de la municipalité qui organisaient des contacts d'affaires, très déçus par le comportement des Français, en disant, voilà, nous on se met en quatre, quand les Français viennent, on fait des rencontres, les Chinois qu'on fait venir souhaitent faire des affaires, et les Français repartent, sont-ils terrorisés, ont-ils peur de nous, qu'est-ce qui se passe ? Et c'était drôle parce que je demandais à ces gens-là qu'est-ce que c'était leur rêve pour Tsingtao. Et ils disaient, on veut faire la plus grande marina du monde et la plus belle. Alors je dis, c'est quoi la plus grande et la plus belle? Alors ils disent, c'est une marina plus grande que celle de Miami. C'est des bateaux plus luxueux que ceux des Américains. C'est des bateaux avec des moteurs allemands. Et on voudrait un charme à la française en plus dessus. Donc ils invitaient les gens de Beneteau à faire ça. Je continue sur les conséquences de ce pragmatisme sur le sujet des joint ventures. C'est bien d'être avocat en Chine. C'est un bon business parce que le taux de disparition des joint ventures est très élevé et c'est mieux d'avoir des avocats et un arbitrage parfois que de recourir à un tribunal chinois. Pourquoi ? Eh bien parce que les joint ventures, dans certains cas, s'appuient sur des vraies complémentarités. Le Chinois sait faire quelque chose que vous ne savez pas faire et vice-versa. Par exemple, je pense que les gens qui font de la gestion de l'eau comme Veolia, Lyonnaise des Eaux, ils trouvent des partenaires financiers qui savent négocier avec les municipalités chinoises, ils apportent un savoir-faire, c'est assez stable. Personne ne veut voler le métier de l'autre. Maintenant, si vous mettez à faire des voitures électriques avec un partenaire chinois, c'est une course de vitesse. Chacun veut apprendre et c'est celui qui apprend le plus vite qui va déshabiller l'autre. Hein, donc, et ça, c'est le jeu. Donc, il y a deux sortes de joint ventures. 1% qui est destiné à être stable et l'autre pourcentage, 99%, où il y aura instabilité. Donc, voilà, pragmatisme, attention. Les avocats sont importants, mais ils viennent en second. Il faut déjà un business model robuste dans lequel vous avez les mêmes intérêts à long terme que le partenaire chinois. Hein, c'est ce qu'ils appellent win-win, mais c'est pas faux. Mais des cas win-win sont moins fréquents que les cas de l'un de nous deux va mourir.
Oui, puis il faut être sûr de bien s'être compris. Hein, quand on a les mêmes objectifs à long terme, on peut les avoir comme ça dans les mots, dans un repas, mais il faut vraiment tout éplucher de manière à être bien sûr qu'on les a en vrai, notamment au niveau du retour sur investissement, par exemple. Hein.
Passez-moi juste une toute petite... Pardon, ça marche ou pas ?
Si, ça, je crois que ça marche. Ils s'y font quand ils nous entendent.
Moi, mon expérience, c'est que rarement les partenaires chinois ont des objectifs à long terme. On vit dans un pays où les gens ont des objectifs... en général, à court terme. Donc, avoir les mêmes objectifs à long terme que son partenaire, c'est à mon avis complètement illusoire. Quand vous avez un objectif à 18 mois en Chine, c'est déjà très long. Et d'ailleurs, souvent, les Chinois vous le disent.
Oui, c'est vrai aussi. Mais enfin, ça dépend du type d'entreprise. Vous avez des entreprises où les intérêts de l'État sont très forts, où ça obéit à des plans. Et là, il y a un long terme qui est un peu discernable, peut-être. Mais je vais donner la parole à Monsieur Jean Veillon, vice-président donc du board qui supervise Solving FSO, une société de consulting. Et on en revient à la même question. Les Chinois, des gens très bizarres ou des gens tout à fait comme les autres, des humains comme les autres?
Prétendent qu'ils sont exactement. Pardon. Ah, voilà. Excusez-moi. Bon, il est dur de prétendre que c'est exactement la même chose. C'est forcément un petit peu particulier. François Julien, ce matin, a insisté sur la limite et même l'inanité de la réflexion sur les différences. Bah oui, la Chine, c'est vrai, c'est curieux, c'est plein de Chinois, enfin bon, c'est très différent. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne sais pas s'il y a des règles générales, si ce n'est qu'on va retrouver un certain nombre de choses qu'on peut considérer comme des banalités, mais qu'on peut considérer aussi comme des basiques. Moi, j'ai eu la chance de créer ma propre société, donc Solving, ses filiales, dans un peu plus de 20 pays au cours des 20 dernières années. Je ne suis pas sûr que la Chine, ça a été le plus difficile, ou le plus décevant, ou le plus particulier. Et bien que ça soit un métier qui est toujours le même, plus ou moins, je suis tombé sur des personnalités et des gens très, très différents selon les pays. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde ce qui a marché ou ce qui marche bien, ben on retrouve des comportements qui sont des comportements, j'allais dire, d'honnêteté, de bon sens. C'est-à-dire qu'on prend un peu de temps, c'est-à-dire qu'on respecte ses interlocuteurs, c'est-à-dire qu'on ne les brutalise pas, qu'on cherche effectivement des solutions, qu'on évite de les punir ou de les châtier, etc., etc. Choisir un bon partenaire, c'est compliqué dans tous les pays. Alors c'est un peu plus compliqué en Chine, probablement, parce qu'on connaît moins bien, qu'on a moins de perspectives, qu'on est moins proche, etc., etc. Ne pas être copié, il n'est pas nécessaire d'aller si loin pour être copié quand on fait des produits ou même des approches ou des concepts, etc., etc. Donc je crois que il n'y a pas de recette miracle, il y a un ensemble de choses, par contre, de bonnes pratiques, de comportements qui permettent de bien s'adapter.
Ça, c'est très important. Il n'y a pas de recette miracle. Peut-être qu'en Chine, moins qu'ailleurs, on en cherche. C'est peut-être parce qu'on cherche beaucoup de recettes miracles vis-à-vis de la Chine qu'il faut dire très fort qu'il n'y en a pas de recette miracle. Alors, Max Solvert, vous êtes vice-président donc Central Pékin. Je vous repose la même question. Peut-être que vous allez y répondre d'une manière plus proche de l'éducation.
Plus proche de l'éducation, oui. En fait, l'école centrale de Pékin en Chine n'est pas née non plus juste d'une volonté des ministères. Elle est aussi née d'une négociation avec l'université chinoise. Donc nous avons passé un certain temps à la table des négociations, voire des soirées. Ça a pris beaucoup de temps. Et là aussi, je voudrais rejoindre un petit peu ce qu'a dit Monsieur Julien ce matin. La Chine et les Chinois, il y a des écarts. Mais c'est valable aussi pour eux. En fait, nous, Européens, nous sommes différents des Chinois. Donc nous pouvons aussi discuter pied à pied, respecter nos valeurs et respecter, tout en même temps, respecter les valeurs des Chinois. Et c'est en cela que je rejoins Olivier Lefebvre. Nous pouvons aussi adopter notre comportement d'Européens. Par contre, ce qui est extrêmement important, nos comportements et nos valeurs européennes. Ce qui est important, par contre, c'est d'adopter un comportement vis-à-vis de nos interlocuteurs qui ne soit pas frontal, qu'il n'y ait pas de heurts frontaux, parce qu'en général, ça se termine très vite et très mal. Il faut aussi comprendre leur motivation, comprendre leur façon de fonctionner et rester très adaptable, surtout ne pas venir avec un modèle, comme M. Julien le disait, et puis ne pas en bouger et rester ferme dessus. Il faut savoir être souple, savoir faire évoluer un petit peu sa demande, faire évoluer en fonction de la situation, profiter de cette situation et de ses opportunités pour faire évoluer ce qu'on vient proposer en Chine.
Voilà, en définitive, on rejoint ce que disait M. Julien ce matin, il faudrait faire ce que les Chinois ont fait. Ils ont appris notre aptitude à modéliser, donc il serait bon que nous, on apprenne leur aptitude à surfer sur la vague, être toujours mobile. Et tout à l'heure, vous parliez du temps. C'est vous, je crois, Monsieur Larson, qui parlait. Il disait, ils ont tout le temps, hein, donc il faut faire attention quand on arrive de pas dire on est là pour 3 jours parce que c'est sûr que la négociation n'aura pas abouti au bout de 3 jours. Mais ils ont tout le temps, c'est vrai. Ils le prennent quand il le faut et ils vont vite. Ils vont très très vite. Et il y a une chose qui intéresse pratiquement tous les opérateurs qui sont actuellement en Chine ou qui pensent y aller, c'est les nouvelles législations qui viennent de tomber. C'est un pays en construction pour tout, en construction aussi sur le plan des lois. Et vous savez qu'il y a une nouvelle législation du travail qui est tombée en janvier, qui est mise en pratique en janvier, qui rapproche un petit peu plus, je parle sous votre contrôle, Monsieur Lefebure, qui rapproche un petit peu plus, je pense, le marché du travail chinois qui était quand même très très différent d'une autre des pratiques mondiales, hein. Et il y a aussi un nouveau guide des investissements directs étrangers qui a été mis en place. Donc tout ça, ça change la manière de travailler. Il y a eu beaucoup d'anxiété. On a vu les milieux étrangers, notamment français, avoir très très peur parce que beaucoup de choses changeaient avec la législation du travail. Il fallait d'abord des contrats de travail, tout ça. Mais est-ce que les étrangers ont eu raison d'avoir peur? Et qu'est-ce que ça change pour de vrai et qu'est-ce que ça va changer dans les années à venir? Alors là, c'est l'avocat d'abord qui va parler.
Parce que certains étrangers continuent à avoir peur.
Certains étrangers continuent à avoir peur, mais à mon sens, ça n'est pas justifié. Moi, je dois vous dire que je suis toujours un petit peu frappé de voir des Français commencer à organiser du lobbying anti-nouvelle loi sur le travail. Quand on sait toute la sécurité dont nous disposons chez nous et dont la plupart des salariés français ne sont pas prêts à se priver. Donc expliquer ensuite aux Chinois qu'ils ont tort de préparer une loi où on ne pourra plus faire 10 CDD successifs, ça me stupéfait un peu. On a donc effectivement l'année dernière 4 grandes nouvelles lois qui ont beaucoup modifié beaucoup de choses. Loi sur le travail, je vais revenir, loi fiscale, loi sur la concurrence, et puis le guide des investissements dont vous avez parlé. Pour la loi sur le travail, elle ne change pas l'équilibre, elle rapproche un peu les Chinois de notre modèle, mais le fossé qui nous sépare reste quand même abyssal entre la protection dont jouit un ouvrier chinois et celle dont jouit un ouvrier français. Cette loi, techniquement, elle prévoit qu'on ne peut plus faire des CDD ad vitam aeternam et qu'au bout du deuxième CDD renouvelé, on passe en CDI. Elle prévoit que lorsqu'on ne renouvelle pas un CDD, on doit compenser, ce qui existe en France. Elle encadre mieux les clauses de non-concurrence, les clauses de dédiformation, que des choses extrêmement classiques, et donc pas de révolution. J'ai lu l'autre jour, j'intervenais dans l'enceinte d'un syndicat patronal français, et il y avait la brochure de cette organisation que j'ai lue, et qui disait « ouf », les termes étaient ceux que je vais vous dire, « ouf, avec la nouvelle loi sur le travail, nous avons échappé à l'autogestion syndicale en Chine ». C'est extraordinaire, extraordinaire de lire ça. Quelle méconnaissance du contexte. Effectivement, cette nouvelle loi renforce un peu le rôle du syndicat. Il n'y a pas des syndicats, il y a un syndicat qui est sous contrôle des autorités. Moi, j'ai des clients qui n'en ont pas ou qui ont le syndicat. Aucun de mes clients en Chine qui a une représentation syndicale ne s'en plaint. puisque d'ailleurs quand vous lisez la réglementation, la loi sur le syndicat, dans le préambule de cette loi, il est indiqué que le syndicat est là pour faire respecter l'ordre et la discipline dans l'entreprise. On n'est pas du tout sur la logique syndicale européenne issue de 150 ans de lutte sociale, etc. On est sur quelque chose de complètement différent, même si le nom donné à la chose est le même. Et donc il faut évacuer, j'allais dire, les fantasmes que l'on peut avoir tirés de l'expérience européenne du communisme, parce que l'expérience asiatique, en tout cas l'expérience chinoise du communisme, est quelque chose de très très différent. Et que finalement, les Chinois nous démontrent au XXe et au XXIe siècle que le communisme peut peut-être muter, ce que le communisme européen n'a pas réussi à faire.
Oui, puis il faut faire très attention avec la Chine, c'est que les mêmes mots ne recouvrent que très rarement les mêmes réalités quand on les compare avec des réalités européennes. Monsieur Veillon, vous avez quelque chose à... Vous avez donc une bonne vision sur les entrepreneurs étrangers, notamment français, installés en Chine. Mm-hmm. Comment ont-ils ressenti les premières applications de ces nouvelles lois?
De façon relativement variée, on voit un peu tous les comportements. Fondamentalement, je pense qu'on ne peut que se réjouir de l'extension du domaine du droit en Chine, comme partout, parce que le droit est utile et favorable aux affaires, donc au développement, donc quelque part, sinon au bonheur, du moins à l'aisance matérielle de l'ensemble de l'humanité. Donc on ne peut que s'en réjouir. Dans l'ensemble, il n'y a pas de réaction majeure vis-à-vis de ces nouvelles lois. Alors, il ne faut pas non plus être naïf. Le droit, c'est un instrument de régulation, mais c'est un instrument de régulation dans tous les sens. C'est-à-dire que les Chinois chercheront à l'utiliser pour protéger leurs intérêts, pour favoriser d'autres intérêts, pour ralentir certaines évolutions, pour en accélérer d'autres. Comme le fait n'importe quel gouvernement au monde, oui. Y compris ceux qui se prétendent les plus libéraux.
Non, mais c'est une attitude à peu près logique, là, on retrouve. Je sais que vous, ici, avez envie d'avoir des conseils très concrets, très pratiques, et on me proposait de poser une question sur les différentes stratégies pour créer une entreprise. Alors, à la fois, les différentes stratégies et différentes formes sous lesquelles on peut créer une entreprise, la manière de rechercher des gens, par exemple, quand on veut créer un réseau. Est-ce qu'on peut, en si peu de temps, et qui pourrait le faire autour de cette table, donner quelques grandes lignes, quelques grands conseils pour que des opérateurs puissent s'y retrouver un petit peu dans le maquis des différentes possibilités, ne serait-ce qu'en s'appuyant sur ce qui se fait de plus en plus. Il y a eu une période où il fallait absolument être en JV. Bon, maintenant, c'est un peu différent. On peut être en 100% dans beaucoup de domaines et beaucoup d'opérateurs préfèrent être carrément en 100%. Alors, c'est l'avocat, encore une fois, qui répond ou...
Pas monopoliser la parole.
Non, monsieur Larson, peut-être.
Je veux bien essayer de répondre. Maintenant, peut-être en transition avec ce qui a été dit sur le droit du travail... Depuis que la Chine est rentrée dans l'OMC, alors c'est progressif par branche, mais au total, ça veut dire de plus en plus de régulations et des régulations qui sont bon, spécifiques à la Chine, mais pas très différentes des autres standards internationaux. Donc tout ça est très réconfortant, on s'y retrouve mieux. Alors la seule petite inquiétude qu'on pourrait avoir, que ce soit la législation du travail ou une autre, c'est est-ce que les entreprises internationales, les étrangères, sont pas traitées moins bien? Enfin, elles doivent respecter la législation, alors que peut-être un paquet d'entreprises locales continue à moins les respecter. Hein. C'est vrai pour le droit du travail, c'est peut-être vrai aussi pour le droit de la propriété intellectuelle. Donc la question, c'est quand même qu'on va vers un monde où ces firmes-là, étrangères ou locales, seront traitées avec équité, égalité par les autorités chinoises. Alors maintenant, je vais à votre question du... Comment faire pour s'implanter? Donc d'une certaine manière, c'est formidable. Dans la plupart des industries, vous êtes libre. Vous pouvez créer un bureau, vous pouvez embaucher des gens et vous pouvez avoir une société à 100% à vous. Et la plupart des grandes multinationales, dès qu'elles le peuvent, elles vont dans ce registre-là. Hein. Peut-être elles gardent certaines joint ventures. Et puis la firme suivante va être 100% privative. Pourquoi? Bon, il y a à la fois peut-être préservé dans certains cas les aspects de propriété intellectuelle, mais surtout, j'ai l'indépendance de décision. Je veux bien décider tout seul. Je n'ai pas à tenir compte d'un actionnaire égalitaire ou minoritaire étranger. Mais ça, je trouve, ça vaut pour la grande entreprise. Qui peut s'offrir ça, qui a les moyens, qui a la durée. Et dans certains cas, je me dis que pour les entreprises petites ou moyennes, c'est quand même bon d'avoir un partenaire, même si on n'y est pas obligé. On revient sur cette question et je suis d'accord à tout ce qui a été dit avant. À la fois, donc, ce pragmatisme, à la fois moins de vision de long terme, parce que si votre affaire commune ne rapporte pas dans les 18 mois, disait l'un d'entre nous, 2 ans, 3 ans, le partenaire va lâcher. Mais je dis donc quand même, pour les firmes moyennes, c'est bien agréable si vous trouvez une firme à peu près de même poids que vous. C'est comme au poker, c'est dangereux si vous n'avez pas beaucoup d'argent de jouer contre un milliardaire. Donc de travailler avec quelqu'un qui a à peu près la même force que vous et avec des intérêts complémentaires, c'est-à-dire chacun apporte un élément dans la chaîne de valeur permettant de gagner de l'argent ensemble. À ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de s'associer. Je suis pas sûr d'ailleurs que la joint venture soit le meilleur moyen parce que d'une certaine manière, peut-être le contrat peut permettre de le faire. Donc faut pas rejeter l'idée d'avoir une alliance, un partenaire, une coopération, même si on n'y est pas obligé, parce que dans certains cas, c'est bon d'avoir un partenaire local qui a la connaissance du milieu, qui a peut-être plus d'accès facile si vous avez besoin d'une sorte de protection ou de bénédiction d'autorité publique locale. Enfin, je dirais que la plupart des problèmes que je vois pour les très grandes firmes que pour les petites, c'est quels sont les gens qui vont staffer ça. Et on retombe sur ce que j'ai entendu de Centrale Paris. Nous aussi, moi je représente l'école HEC, on est présent en Chine. La grande demande des firmes européennes, américaines, chinoises ou des joint ventures, c'est trouvez-nous des gens pour staffer ces projets. Donc la clé ultime, cette affaire-là, c'est ces profils biculturels, par exemple, qui vont nourrir le business. Mais ne nous séparons pas trop vite de l'idée de profiter d'un partenaire qui va être le poisson pilote, qui va peut-être être plus fort en termes d'introduction sur le marché. Tout dépend aussi le genre de produit, est-ce qu'on est dans le vente au consommateur, dans le vente au business. Le partenaire est quelque chose d'important.
Parfois, on s'adapte à la situation.
Puis-je dire un mot technique ?
Oui, allez-y.
Sur ce sujet, effectivement, il y a différentes formes de partenariat. Je crois que M. Larson a raison de le souligner. La joint venture, attention, c'est-à-dire que la loi sur le droit des sociétés chinoises s'est beaucoup modernisée ces deux dernières années, pas la loi sur les joint ventures, qui a été exclue du champ d'application des réformes. On a donc pour les joint ventures une loi qui s'applique à votre structure, qui est une loi qui a une quinzaine d'années, et qui aujourd'hui est archaïque, et qui notamment donne à un partenaire minoritaire un poids exorbitant, en ce sens que cette loi prévoit qu'une série de décisions, qui sont les décisions les plus importantes, doivent nécessairement être prises à l'unanimité. Ce qui fait que même si vous avez 90% du capital de votre structure, vous pouvez être bloqué par un partenaire minoritaire. Donc, attention à cela. Le conseil, d'ailleurs, que nous donnons aujourd'hui, c'est dans la mesure du possible, et quand le partenaire chinois l'accepte, mais là, il y a un bras de fer à mener qui peut être intéressant, c'est plutôt de syndiquer la joint venture, si on considère que c'est intelligent d'en faire une, à Hong Kong. Les Chinois ont aujourd'hui le droit d'investir dans des structures hongkongaises. Vous pouvez faire une joint venture à Hong Kong. Là, vous échappez à cette réglementation chinoise un peu archaïque. Vous avez un droit des affaires de Hong Kong qui est extrêmement performant. Vous pouvez organiser la répartition des pouvoirs entre actionnaires. Et cette holding hongkongaise, cette joint venture hongkongaise, investira dans une 100% capitaux étrangers en Chine. Voilà une manière de faire qui permet d'éviter ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le poids exorbitant qu'aura votre partenaire nécessairement.
C'est une belle manière de s'adapter à la situation, comme le disait M. Julien ce matin. Vous nous donnez un conseil direct, pratique, pour éviter un risque. Si on restait dans le domaine des risques, tout le monde a en tête actuellement l'affaire qui a défrayé la chronique entre Danone et Ouahaha. Bon, elle n'est toujours pas terminée. Alors, est-ce que de ce côté-là, du côté d'une copie, d'un non-respect des contrats, est-ce que du côté des impayés, enfin, tous les grands risques qui font un peu peur aux opérateurs français, surtout les PME, parce que les grosses entreprises, elles ont les services qu'il faut, puis elles savent, est-ce qu'il y a différents moyens de s'en prémunir quand on va en Chine? Alors là, je pense encore une fois que c'est vous, Monsieur Lefebvre, mais tout le monde pourra participer.
Je vais être court et je vais rebondir sur ce que disait Monsieur Larson tout à l'heure et laisser la parole aux autres qui ont aussi une expérience chinoise. La Chine, Danone Ouahaha, moi je ne suis pas dans le dossier, si j'étais dans le dossier je pourrais pas en parler, j'y suis pas, je peux en parler, mais du coup j'en connais pas grand chose. Cette affaire elle révèle quoi? Elle rappelle quoi? Elle rappelle que la Chine, qui s'est beaucoup modernisée ces 30 dernières années, il y a un domaine où elle ne s'est pas beaucoup modernisée, c'est non pas son droit des affaires, c'est son système judiciaire. La Chine n'est pas un état de droit. Et elle est loin d'en être un. Et donc, vous n'allez pas, le juge, si vous avez un partenariat, si vous êtes copié, si vous, etc., si ça se passe mal avec un partenaire, avec un copieur, avec qui que ce soit en Chine, le juge va être d'un recours, va être un recours inutile pour régler votre difficulté. Alors, dans un État qui n'est pas un État de droit, comment se prémunir des différents risques que vous avez soulignés ? Un, en n'étant pas naïf. Par exemple, dans le domaine de la propriété intellectuelle, en se protégeant. Nous avons encore très régulièrement des gens qui viennent nous voir en disant « Je suis copié en Chine, faites quelque chose. » Bien, est-ce que vous avez fait des extensions de vos enregistrements sur la Chine ? Non. Bon, ben, il n'y a rien à faire. Bon. Un, il ne faut pas être naïf. Deux, il faut, par le contrat, par la pratique, par les relations qu'on a là-bas, aménager un rapport de force qui vous soit, qui ne vous soit pas, en tout cas, par trop défavorable. S'il y a un rapport de force défavorable, votre partenaire risque d'en profiter et vous ne pourrez pas faire de contentieux, ce sera inutile. Ça n'enrichira que votre avocat, ce qui est déjà pas mal, mais ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc, aménager dans vos relations avec vos partenaires, d'abord, travailler ces relations pour que ce soit des relations de confiance et aménager un rapport de force qui soit à tout le moins équilibré. Parce que le juge chinois, le droit chinois, en cas de contentieux, sera d'une faible utilité.
Bien. Donc sur les différents risques, ne serait-ce qu'un risque en particulier, est-ce que vos expériences vous permettent de donner un conseil, monsieur
Juste un mot sur Warara, parce que je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit. Alors non seulement les Chinois sont des gens comme les autres, mais ils sont malins comme les autres. Alors le procès principal sur l'affaire Warara se tient, je ne sais plus sous quelle législation vous allez me dire, parce que je connais le président de Warara, il avait immatriculé une de ses sociétés mères aux îles Vierges. Alors que Danone est une firme très agile sur la chaîne internationale, très brillante, il a été plus malin que les juristes de Danone. Donc c'est vrai, il faut se méfier, mais je reviens à ma théorie des intérêts intrinsèques. Je suis pas très marxiste, hein, de culture, mais il vaut mieux que sur le long terme, les intérêts des deux maisons convergent. Et connaissant bien Warara, j'affirme la chose suivante. Les deux maisons étaient destinées à se concurrencer. Il y avait un ensemble de joint ventures qui avait une valeur à court terme pour chacun des partenaires, mais l'avenir à long terme des deux était de se séparer. Et là, l'un était plus malin que l'autre en termes juridiques.